Contes et lectures. Carlo Ruexeguer.
La grandeur de l'homme. L'obscurité s'était déjà faite quand la porte de la triste prison s'ouvrit pour laisser les gardiens jeter à l'intérieur un minuscule petit vieillard barbu. Sa barbe blanche était presque plus grande que lui. Et dans la triste pénombre de la cellule, elle faisait comme une faible tache de lumière, ce qui ne manqua pas d'impressionner les truands entassés là. Mais le petit vieillard, surpris par l'obscurité, ne s'était pas aperçu dès l'abord que cette sorte de grotte était déjà habitée. Il s'enquit. Y a quelqu'un ? Ce furent des ricanements et des meuglements divers qui lui répondirent. Puis on fit, selon l'étiquette locale, les présentations.
Ricardo Marcello, vol qualifié.
Une seconde voix, tout aussi éloquemment caverneuse.
Bezzella Carmelo, récidive d'escroquerie.
Et puis.
Marfiluciano, viol.
Lavatore Max, innocent.
Ah, une salve de gros rire. Salut à cette plaisanterie, car tous connaissaient Lavataro, un réputé fameux brigand chargé de crimes. Ce fut ensuite
Esposito Enea, homicide.
Cela étant dit avec un frémissement d'orgueil dans la voix.
Mutironi Vincenzo,
parricide.
Et toi, vieux pou?
Moi, répondit le nouvel arrivé,
je ne le sais pas exactement, ils m'ont arrêté, ils ont demandé mes papiers. Mais moi, des papiers, je n'en ai jamais eu.
Vagabondage alors? Bof, s'écria Lando avec dédain.
Et ton nom?
Je suis Moreau. Moreau, appelé communément le Grand. Moreau le Grand? Ah, quelle absurdité, comment un détenu invisible! Un tel nom est un peu large pour toi, tu peux y entrer une dizaine de fois.
C'est tout à fait exact, dit le petit vieillard avec une grande mansuétude. Mais ce n'est pas de ma faute. On me l'a fichu sur le dos par mépris, ce nom, et je n'y puis rien. Cela m'attire des ennuis, même. Par exemple, une fois. Mais c'est une trop longue histoire.
Vas-y, vas-y, crache-la ton histoire, lui lança durement des voyous. Ce n'est pas le temps qui nous manque.
Ils approuvèrent tous. Toute diversion était une fête dans le sombre ennui de leur prison.
Bien, raconta le vieillard. Un jour que je me trouvais dans une ville dont il vaut peut-être mieux taire le nom, je vois un grand palais avec des domestiques qui vont et viennent par le portail chargés de tous les dons du Seigneur.
Hé, on donne une fête ici, pensais-je, et je m'approche pour demander l'aumône.
Je n'ai pas fait trois pas qu'une sorte de cerbère haut de 2 mètres m'attrape par le cou et se met à hurler.
Le voici, le voleur! Voleur qui a pris hier la couverture du cheval de notre maître! Et il a le courage de revenir! Eh bien maintenant, nous allons te compter les os. Mais moi hier, j'étais au moins à 30 000 d'ici. Comment est-ce possible?
Je t'ai vu de ses yeux vus. Je t'ai vu qui te sauvait avec la couverture sur les épaules.
Et il me traîne dans la cour du palais. Je me mets à genoux.
Hier, j'étais au moins à 30 000 d'ici. Je ne suis jamais venu dans cette ville. Parole de Moreau le Grand.
Comment ?
Fait l'énergumène en me dévorant des yeux. Et je répète,
parole de Moreau le Grand.
Et l'autre, tout fou furieux qu'il était, se met soudain à rire.
Moreau le Grand, Moreau le Grand, dit-il. Venez tous, venez voir cette vermine qui prétend s'appeler Moreau le Grand.
En s'adressant à moi, mais sais-tu qui est Moreau le Grand?
Je répondis, à part moi, je n'en connais aucun.
Moreau le Grand, fait le sacripant, ce n'est personne d'autre que notre très estimé maître. Et toi, Manon? Tu oses usurper son nom. À toi l'affraie. Tiens, justement, il arrive. Comme je vous le dis, intrigué par les cris, le propriétaire du palais était descendu dans la cour. Un très riche marchand.
l'homme le plus riche de la ville, peut-être même du monde. Il s'approche, il interroge, il regarde, il rit. L'idée qu'un misérable de mon espèce puisse porter le même nom que lui l'amusait. Il ordonne à ses serviteurs de me laisser. Il m'invite à entrer, il me fait visiter tous ses salons pleins à craquer de trésors. Il me conduit même dans une chambre forte où il y avait des monceaux comme ça d'or et de diamants. Il me fait servir à manger et puis il me dit « Cette aventure au vieux mendiant qui porte un nom semblable au mien est d'autant plus extraordinaire que, durant un voyage en Inde, elle m'est également arrivée. » Je m'étais rendu au marché pour y vendre ce que j'amenais, et aussitôt, voyant toutes ces précieuses choses, on m'entoura de toutes parts pour me demander d'où je venais et qui j'étais. « Je me nomme Moreau le Grand, » répondis-je. Et les autres, le visage obscurci, « Moreau le Grand ? À quelle grandeur peux-tu donc prétendre, pauvre vulgaire marchand ? La grandeur de l'homme est dans son esprit, il n'est qu'un seul Moreau le Grand. » Et il vit dans cette ville. Il est l'orgueil de notre nation. Et toi, coquin, il te faudra maintenant t'expliquer devant lui de ta vantardise. Il m'attrape, il m'attache et me conduit auprès de ce Moreau dont j'ignorais l'existence. C'était un très célèbre savant, philosophe, mathématicien, astronome et astrologue, vénéré presque comme un dieu. Heureusement, il a aussitôt compris le quiproquo et il s'est mis à rire. M'a fait libérer. Puis, il m'a emmené pour visiter son laboratoire, son observatoire et les merveilleux instruments qu'il avait construits de ses mains. Enfin, il m'a dit « Cette aventure, ô noble étranger, est d'autant plus extraordinaire que durant un voyage dans les îles du Soleil Levant, elle m'est également arrivée. Là-bas, je m'étais acheminé vers le sommet d'un volcan que je désirais étudier. Quand un groupe de gens en armes, intrigués par mes habits étrangers, m'arrêtèrent pour savoir qui j'étais. À peine avais-je prononcé mon nom qu'ils me chargèrent de chaînes et me traînèrent vers la ville. « Moreau le Grand, » me disait-il, « quelle grandeur peut donc être la tienne, misérable petit maître pédant ? La grandeur de l'homme réside dans les gestes d'éclat. Il n'est qu'un seul Moreau le Grand. C'est le seigneur de cette île, le plus valeureux guerrier qui ait jamais fait scintiller son épée au soleil. » Et maintenant, il te fera décapiter. De fait, ils me conduisirent en présence de leur monarque, un homme à l'aspect terrifiant. Je parvins par bonheur à m'expliquer, et le terrible guerrier se mit à rire de cette singulière conjoncture. Il me fit retirer des chaînes, m'offrit de riches vêtements, m'invita à pénétrer dans son palais pour y admirer les splendides témoignages de ses victoires sur tous les peuples des îles, qu'elles fussent proches ou lointaines. Puis il me dit « Cette aventure, ô illustre savant qui porte un nom semblable au mien, est d'autant plus extraordinaire que, pendant que j'étais allé combattre sur ces terres fort éloignées que l'on nomme l'Europe, elle m'est également arrivée. J'avançais avec mon armée au travers d'une forêt quand je rencontrais soudain de rustres montagnards qui me demandèrent « Qui es-tu donc pour oser jeter un tel fracas d'armes dans le silence de nos bois ?» Je répondis « Je suis Moreau le Grand. » Pensant qu'à mon seul nom, ils se mettraient à trembler. Ils eurent tout juste un sourire de commisération répliquant « Moreau le Grand, tu veux plaisanter ? Quelle grandeur peut donc être la tienne, vaniteux homme de violence ? La grandeur de l'homme réside dans l'humilité de la chair et dans l'élévation de l'esprit. Il n'est au monde qu'un seul Moreau le Grand, et nous allons te conduire jusqu'à lui pour te laisser admirer la vraie gloire humaine. » Ils me guidèrent en effet jusqu'à une petite vallée encaissée où, dans une misérable cabane, vêtue de haillons, vivait un vieillard à la barbe blanche et qui passait son temps, me dirent-ils, à contempler la nature et adorer Dieu. Et je dois honnêtement admettre que je n'avais jamais vu un être humain plus serein, satisfait de son sort et, probablement, heureux. Mais il était pour moi en vérité déjà trop tard. Je ne pouvais plus changer mon destin. Voilà ce qu'avait raconté le puissant roi de l'île à l'illustre savant, et le savant l'avait ensuite dit au richissime marchand, et le marchand s'en était ouvert au pauvre petit vieillard qui s'était présenté dans son palais pour demander l'aumône.
Et tous se nommaient Moro. Et tous, chacun pour une raison différente, avaient été surnommés Le Grand. Maintenant, dans la sombre prison, quand le vieillard eut fini son histoire, un des coquins lui demanda
« Si donc, si mon crâne n'est pas empli de marmelade, ce maudit vieillard de la cabane, le plus grand de tous, ne serait autre que toi ?»«
Eh, mon cher fils, murmura le barbu sans répondre vraiment, la vie est une chose bien curieuse. » Alors, pour quelques instants, les truands qui l'avaient écouté se turent, car certaines choses donnent parfois à réfléchir, même aux hommes les plus déshérités. Thank you.